texte comme celui-ci, il convoque philosophie, conviction, éthique, jusqu'au dernier instant, la personne peut à tout moment décider d'interrompre la procédure.
Il y a des gens qui probablement vont demander l'euthanasie par défaut d'accès aux soins palliatifs.
Comme vous le savez, il y a la liberté de vote au Rassemblement National, une très large majorité du groupe votera contre. Moi, à titre personnel, je voterai pour.
De Monsieur De Villiers, qui parle de retour au Troisième Reich.
Ce texte, il est un texte issu d'un processus démocratique.
Il arrive que la classe politique retrouve le chemin de la sincérité. L'adoption transpartisane de la loi relative au droit à l'aide à mourir vient d'en apporter la démonstration, comme quoi la représentation nationale sait parfois être à la hauteur. C'est le sommaire de ce bonbon de Serge, numéro 158. Dans l'histoire législative, il y a des lois qui marquent des tournants, des textes qui installent un avant et un après. Ainsi en fut-il de l'abolition de la peine de mort en 1981 ou de l'interruption volontaire de grossesse en 1975 et plus près de nous du mariage pour tous en 2013. Autant de lois dites sociétales qui renvoient chacun à ses valeurs et à son regard sur la condition humaine. Assurément, la loi sur l'aide à mourir, votée hier en quatrième et dernière lecture par l'Assemblée nationale, est de cette nature. Elle crée un droit nouveau que nul ne sera jamais contraint d'exercer, celui de choisir l'heure de sa mort quand il estime qu'il n'y a plus d'issue, avec la certitude de pouvoir renoncer jusqu'au dernier instant. C'est une loi de dignité, quand bien même on puisse y être opposé. L'Assemblée nationale ne s'y est pas trompée. Au terme d'un débat qui s'est étalé sur presque 3 ans, tous les groupes parlementaires ont laissé leurs députés voter comme ils l'entendaient. Sur les 532 suffrages exprimés, 291 votes se sont prononcés en faveur du texte. Et fait remarquable, dans chacune des familles politiques, il y a eu des pour et des contre. Une question d'éthique pour l'un des multiples rapporteurs de cette proposition de loi.
Bien sûr, c'est un cas de conscience parce qu'un texte comme celui-ci, il convoque philosophie, conviction, éthique. Mais surtout, ce texte, il parle des malades. Et moi, mon vote, il est guidé par ces malades, des hommes et des femmes qui sont en fin de vie, qui ont malheureusement une maladie avec un processus irréversible, sans possibilité, sans aucune possibilité ni de rémission, ni d'amélioration de leur état. Donc à partir de là, et les soins palliatifs n'apportent pas des réponses dans tous les cas. Donc il faut qu'on soit en capacité de les accompagner lorsque pour eux la vie n'est plus rien, ça n'est plus ce souffle qui peut apporter un peu de bonheur du quotidien.
Mais il y a des inquiétudes, notamment sur la question des délais.
On prend un délai parmi toute la procédure et puis on vous dit 48 heures, c'est le délai pour répondre. Non, ce n'est absolument pas ça. Il y a tout d'abord la demande. La demande, quand la personne formule une demande d'aide à mourir, elle y a, je crois, beaucoup réfléchi avant de la formuler. Ensuite, cette demande, une fois faite, une fois les critères vérifiés par le médecin qui a fait l'objet de la demande, ensuite fait l'objet d'une analyse par un collège pluriprofessionnel qui a jusqu'à 15 jours pour émettre son avis. Et une fois cet avis rendu au professionnel de santé qui a fait l'objet de la demande, celui-ci dispose d'un délai avant lui de donner son avis de professionnel. Et c'est ensuite, une fois cet avis donné à la personne, qu'il y a ce délai de 48 heures pour la personne de confirmer ou pas sa volonté. Mais je rappelle que jusqu'au bout du processus, jusqu'au dernier instant, la personne peut à tout moment décider d'interrompre la procédure.
L'hôpital est en souffrance, on le sait, et l'accès aux soins palliatifs est souvent difficile. L'aide à mourir ne risque-t-elle pas de s'imposer comme solution de remplacement d'un système défaillant? C'est la crainte de Philippe Juvin.
Je vais voter contre parce que aujourd'hui, quand les gens meurent en France et qu'ils ont besoin de soins palliatifs, la moitié n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui probablement vont demander l'euthanasie par défaut d'accès aux soins palliatifs. Vous êtes seul, qu'il n'y a personne pour vous laver quand vous êtes grabataire dans votre lit et que l'infirmière ne passe que 24 heures plus tard. Oui, la fin de vie est beaucoup plus difficile. Et ça peut donner des envies de mort que s'il y a quelqu'un pour vous dire que oui, il vous aime et que oui, il est là pour vous laver tout de suite 24 heures sur 24. Oui, il y a des gens qui ont des fins de vie qui sont beaucoup plus difficiles. Et ces gens-là, ils peuvent être amenés à demander la mort par défaut de soins. Moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai constaté une chose. Quand il y a des demandes d'euthanasie, elles disparaissent toutes quand on apporte une réponse aux gens. Parfois c'est une douleur qui était maltraitée, parfois c'est une question d'isolement social, parfois c'est un conflit familial avec une désespérance parce qu'on est abandonné à sa seule maladie comme seul horizon. Quand les gens font une demande d'euthanasie, en fait la demande d'euthanasie disparaît quand on apporte des réponses. Et ça, la loi est passée à côté, on n'apporte pas de réponse. En tout cas, la seule réponse qu'on apporte, c'est la mort.
Les objections de Philippe Juvin sont recevables. Mais que dire des outrances qui ont accompagné le débat parlementaire sur certains plateaux de télévision ?
J'aimerais bien qu'on s'émeuve un peu plus fort, par exemple de déclarations de M. De Villiers, qui parle de retour au Troisième Reich. Mais vous m'entendez bien. Est-ce que tout le monde mesure la portée de dire sur des plateaux de télévision que cette loi nous ramène au Troisième Reich, la Shoah, Adolf Hitler? Est-ce qu'on mesure ça? Et ce ne sont pas des abrutis anonymes sur les réseaux sociaux, ce sont des personnalités. La leçon de morale par M. François Fillon, ça doit interroger. Leçon de morale, François Fillon, il y a un truc qui ne colle pas.
Pour Jean-Philippe Tanguy, le président de la République aurait dû préférer le référendum à la voie législative.
Comme vous le savez, il y a la liberté de vote au Rassemblement National. Une très large majorité du groupe votera contre. Moi, à titre personnel, je voterai pour, tout simplement, pour assurer ce nouveau droit, cette liberté de choisir. Je pense que toutes ces déclarations et toute cette tension n'auraient pas existé si les macronistes et leurs amis avaient utilisé le référendum. Comme sur l'ensemble des lois sociétales, le référendum est particulièrement adapté pour éviter des déclarations politiques qui ne peuvent ne pas représenter une majorité de Français et qui créent des tensions inutiles.
La veille du scrutin, mardi donc, le Premier ministre a fait savoir qu'il saisirait le Conseil constitutionnel sur la proposition de loi qui vient d'être adoptée. Trois points sont questionnés, le délai de réflexion, la situation des personnes sous tutelle ou curatelle et la clause de conscience collective des établissements de soins. Cette saisine n'effraie pas les partisans de la loi.
Je ne considère pas que le recours devant le Conseil soit un coup de théâtre. Je pense que c'est assez logique sur un texte de cette importance d'avoir l'avis du Conseil constitutionnel. Ça a deux avantages. Ça donne l'avis du Conseil constitutionnel et ça purge la possibilité ensuite d'avoir des QPC qui seraient là, qui seraient pendantes. Là, ça sera acté. Il y a des interrogations des uns et des autres. Eh ben, elles seront tranchées par le Conseil constitutionnel. Et ça, je trouve ça très bien. Après, sur le texte, moi, je veux quand même dire que ce texte, il est un texte issu d'un processus démocratique qui était un long processus démocratique assez particulier, assez novateur, avec l'avis des experts, avec l'avis du Conseil national de l'éthique, mais aussi avec un avis, une délibération citoyenne via la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et on arrive à un texte, après des longs débats parlementaires, mais qui était nécessaire, qui est un texte équilibré, qui reprend la majorité des propositions de la Convention citoyenne. Et moi, je m'en félicite parce que ça sera une étape dans cette façon de faire de la politique où on fait confiance aussi aux citoyens pour arriver à une réponse.
Erwan Balanan vient de le rappeler, la loi sur l'aide à mourir est issue de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui s'est tenue en 2023. Il faut rendre cette justice à Emmanuel Macron. Un des multiples chantiers qu'il a lancés a réussi à aller à son terme. L'actuel président aura au moins une grande loi à rattacher à ses deux mandats. Il était temps. La reprise des hostilités dans le détroit d'Ormuz fait craindre une nouvelle envolée du prix des carburants. Et c'est justement le moment choisi, non sans malice, par le député Philippe Brun pour livrer les conclusions de la mission d'information qu'il a menée sur les aides de l'État aux gros rouleurs.
À la mission que nous avons conduite montre que c'est un échec total puisque seulement 24% des Français qui pouvaient y prétendre ont eu recours à cette aide. Il devait y avoir 2,5 millions de personnes qui bénéficient de l'aide du gouvernement. Il y en aurait eu finalement moins de 700 000. C'est donc un échec. On a arrosé du sable. Comment l'expliquer ? Ben, c'est assez simple. Portail très complexe d'accès qui a été ouvert 2 mois après le début de la crise sur le carburant. Je rappelle, 28 février, on ouvre le portail. On met en place le décret le 30 avril. On ouvre le portail fin mai. Et il y a encore des gens qui n'ont pas été versés aujourd'hui parce qu'il y a des délais de paiement. Il y a des gens qui ont des critères un peu particuliers. Ce matin, j'étais sur RMC. Il y a un auditeur qui nous disait qu'il ne sera versé qu'au mois d'août. Donc quand vous avez votre plein qui vous coûte les yeux de la tête au mois d'avril et qu'on vous verse l'aide au mois d'août, c'est assez logique que les gens n'y renoncent pas. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir baisser les volumes pendant les vacances. Les gens qui sont déjà dans leur camping, qui vont devoir rentrer chez eux, eh bien, ils vont devoir payer plein pot. Ceux qui partent, ils vont pas annuler leurs vacances. Déjà que 70% des Français, selon l'UFC-Que Choisir, ont modifié leur plan de vacances en raison de l'explosion des prix du carburant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mettre en place un nouveau dispositif. Et moi, ce que je propose dans cette mission, c'est qu'on adopte le modèle espagnol, c'est-à-dire une baisse automatique de taxes quand le prix augmente. Et ensuite, un retour à la hausse de la taxe quand le prix baisse. Et cette baisse automatique, elle permet, comme mesure d'urgence, d'éviter cette flambée des prix. Et elle est neutre, finalement, fiscalement pour l'État. On montre que les aides mises en place par l'Espagne, notamment, n'ont coûté pour la TVA que 80 millions d'euros et environ 300 millions d'euros pour les baisses de taxes spécifiques sur les carburants. Donc ça a été une aide qui a été efficace. Elle a baissé l'inflation, elle a permis aux gens d'aller travailler, permettre aux gens d'aller en vacances. Et elle n'a pas eu un coût très élevé pour les finances publiques.
On a arrosé du sable, dit le député socialiste qui milite pour le retour d'une taxation flottante. C'est faux, a rétorqué le même jour la porte-parole du gouvernement, Maud Brejean.
Je trouve que c'est extrêmement méprisant pour tous les Français, d'abord les plus d'un million de Français qui ont touché l'aide gros rouleur de 100 euros, qui en avaient réellement besoin.
Vraiment
plus d'un million, plus d'un million cent. Voilà, je vous le donnerai pas à l'unité près, mais plus d'un million cent à l'avoir demandé et à l'avoir d'ores et déjà touché.
Eh bien, il ne reste plus qu'à vérifier les chiffres. 700 000 pour Philippe Brun, plus d'un million pour Maud Brejean. On devrait savoir bientôt à quoi s'en tenir. C'est l'affiche de la discorde. Certes, Marine Le Pen revient de loin. Jusqu'à la décision de la Cour d'appel, son avenir politique semblait limité. Mais cette posture christique n'est pas du goût de Gabriel Attal. Le candidat macroniste à l'élection présidentielle estime que ce visuel, mis en circulation le 7 juillet, quelques heures après que la Cour d'appel a rendu son arrêt, constitue une appropriation indue de l'identité de Renaissance, son parti. Il a donc assigné le RN et Marine Le Pen en référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour parasitisme et contrefaçon de marque.
Il y a beaucoup de sens à l'utilisation de ce mot. Il y a une référence à l'histoire, il y a une référence à la situation de la France et il y a une référence effectivement à la vie de Marine Le Pen, que d'ailleurs tout le monde a compris comme ça. Et c'est d'ailleurs la preuve que Marine Le Pen a bien choisi effectivement ces mots et cette affiche de lancement de campagne, c'est qu'elle fonctionne. Elle fonctionne tellement bien qu'elle énerve M. Attal. Il paraît qu'elle énerve aussi M. Retailleau.
Il faut se montrer prudent lorsqu'on convoque les références historiques et artistiques. On pourrait finir par confondre la célébrissime Pietà de Michel-Ange avec Marine Le Pen se débarrassant de Jordan Bardella. Pas sûr qu'il y ait une résurrection à la clé cette fois. Merci d'avoir regardé cette chronique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, c'est le moment de sauter le pas. Pour nous soutenir financièrement, c'est sur Donorbox que ça se passe. Vos dons constituent le socle de notre indépendance. Je sais que les sollicitations sont nombreuses, mais on compte sur vous. On se retrouve lundi pour un nouveau Pôle Express.